Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Il aura donc fallu 4 ans et demi depuis le référendum du 23 juin 2016 pour que le Royaume-Uni sorte totalement de l'Union européenne. Le Brexit n'est désormais plus une opinion sur laquelle on s'écharpe en étant pour ou contre, mais bien un fait depuis le 1er janvier de cette année. Beaucoup de questions se posent sur l'accord commercial et de coopération entre le Royaume et l'Union européenne. Que sera désormais l'avenir des relations entre les anciens partenaires associés pendant plus de 45 ans au sein de l'Union européenne ? Alors, pour revenir sur ce sujet complexe, mais aussi douloureux pour beaucoup d'entre nous, nous avons souhaité avoir le regard de Judith Kirton-Darling, députée européenne du Labour, du Parti travailliste, de 2014 au 31 janvier 2020, date effective de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bonjour, Madame Kirton-Darling.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors, je voulais revenir un petit peu avec vous sur votre sentiment, un petit peu avoir votre sentiment concret. Avant de rentrer dans la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, j'aimerais savoir comment vous, en tant qu'ancienne députée européenne, membre du Labour, pour le Remain, et donc pour que le Royaume-Uni demeure dans l'Union européenne, vous, personnellement, avez-vous vécu cette interminable procédure de retrait ?
Oui, évidemment, j'étais et je suis toujours très pro-européenne. Je suis britannique, fière d'être, mais en même temps, je vois que notre avenir est... C'est important d'avoir les relations très étroites avec nos voisins les plus proches. Et donc, toute cette histoire, pour moi, était, comme vous avez dit, très douloureuse parce que ça met en question vraiment en perspective sur mon pays et la coopération internationale sur laquelle j'avais travaillé pour toute mon carrière. Donc, pour moi... bien évidemment, il y a le moment de colère là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de mensonges et de fausses promesses qui étaient faites au sein de la campagne de le référendum. Mais aujourd'hui, on voit concrètement qu'est-ce que les Brexiteers ont apporté, et c'est très très loin de qu'est-ce qu'ils ont promis à le peuple britannique en 2016. Et on voit que les mensonges sont plus évidents aujourd'hui. Donc, il y a un côté que ça me rend triste et il y a un côté que ça me rend un peu colérique. Mais une troisième partie, c'est que je crois que aujourd'hui, peut-être, on est arrivé à le point que dans les mois et les années à venir, la direction de le Royaume-Uni serait vers une relation plus étroite avec nos voisins européens. Et actuellement, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce qui va venir dans les mois à venir.
Revenons sur l'accord. Donc, après 10 mois de négociations, un accord commercial post-Brexit a été trouvé de justesse. Du côté britannique, les avis sont partagés sur cet accord entre le soulagement de mettre fin à des ordres politiques et la peur d'avoir conclu un mauvais deal dans les futures relations avec l'Union européenne. Quelle analyse vous en faites, vous ?
Oui, évidemment, d'avoir un accord, c'était très important. Parce qu'une sortie sans accord aurait été complètement catastrophique. Non seulement pour le côté britannique, surtout pour le côté britannique, mais aussi dans différents pays, les Landes. Il y aurait un grand effet sur la France, sur les Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays. Donc, un accord, c'est très important, mais on ne peut pas dire que cet accord est le meilleur accord qu'on a pu avoir. Et ça, c'est lié à la décision qui a été faite en 2017 par le gouvernement britannique de dire qu'ils avaient envie, de quitter l'union douanière et le marché unique. Dès que cette décision a été prise, le seul accord qu'on peut avoir, c'est un accord de libre-échange de base. Et là, il y a beaucoup d'effets, beaucoup de barrières qui sont créées dans le commerce. Et évidemment, la barrière dans le commerce qui sont en train d'être construites ont un effet sur le travail et l'industrie. Et on va avoir beaucoup de différents impacts dans le mois à venir. Donc, oui, un soulagement qu'il y a un accord, mais c'est peut-être le meilleur accord dans la situation que le gouvernement britannique était très bloqué sur l'idée de quitter l'union douanière et le marché unique.
Alors, il y a aussi une question qui se pose. On a les douanes font donc leur grand retour avec le contrôle des marchandises. On s'attendait à un chaos, hein, que ce soit à Douvres ou à Calais. Comment vous expliquez finalement les craintes d'interminables bouchons ont été évitées?
Il faut rappeler que l'accord était terminé la veille de Noël.
Ouais, le 24, oui.
Et dans cette situation, avec 6 jours avant le deadline, beaucoup d'entreprises ont dit « OK, on fait le stockage pour les premiers quelques mois de 2021 » ou on ralentit le commerce. Donc, on a vu à Dover dans les premières semaines de l'année qu'au lieu de quelques dizaines de mille de camions qui passent entre Dover et Calais d'habitude, il y a eu 800 camions. Donc déjà, il y a eu un ralentissement. Mais il y a eu aussi les embouteillages malgré ça. Il y a beaucoup de camions qui étaient renvoyés de la frontière parce qu'ils n'avaient pas le papier dans le bon ordre. Non seulement la frontière d'Ouvre-Calais, mais aussi la frontière entre le Pays de Galles et les Landes, la République irlandaise. On est en train de voir ça, de voir l'effet dans nos réseaux. Maintenant, aujourd'hui, je suis syndicaliste dans une organisation européenne dans l'industrie. On entend les échos de différentes entreprises, les effets qu'ils ont subis. Et aujourd'hui, à Londres, il y a le camion de les entreprises de fruits de mer de Coste qui défilent au sein de la capitale britannique. Normalement, les fruits de mer sont livrés dans les 12 heures de l'Écosse vers le marché de poissons en France. Et là, ça prend tellement de temps que les fruits de mer arrivent souvent morts et ils ne peuvent pas être vendus. Alors, il faut aussi ajouter à tout ça l'effet COVID. On a vu en Angleterre avant Noël, les effets de COVID sur la route, c'est la fermeture de la frontière avec la France et les chauffeurs de camions qui ont passé Noël dans le parc de camions à Kent. Donc, je crois que ça aussi a eu un effet sur beaucoup des entreprises de transport routier pour dire on n'a pas envie de faire la même histoire en janvier. Et on entend de nos camarades, les syndicats des routiers, qu'il y a beaucoup de chauffeurs de camions européens qui ne veulent plus aller en Angleterre du tout. Et donc, les effets de commerce, on va voir à travers la semaine et le mois, et pas peut-être directement très vite, ouais. Comme est trouvé.
Beaucoup estiment que l'accord sera difficile à mettre en œuvre et à contrôler. Il y a des éléments qui ne sont pas dans l'accord, comme les questions financières, de la justice ou des qualifications professionnelles. Comment vous estimez que cet accord va pouvoir être mis en œuvre? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une sorte de négociation permanente?
Oui, ça va être exactement ça. En fait, l'accord dans certaines parties, l'accord c'est un accord de continuer à parler. Une grande question sur le service financier, c'est très important pour le côté britannique. Et le débat, c'est sur la réglementation. Est-ce que le gouvernement britannique va décider de déréglementer l'économie britannique pour avoir un avantage déloyal?
Un avantage compétitif.
Ça, c'est ça. Il y aurait les impacts commerciaux. Sur le service financier, il y aurait moins d'accès. Ça, c'est le clé pour tout le débat sur le service financier. Et c'est aussi le débat dans le commerce de biens aussi. Si le Royaume-Uni prend une position qui est compétitive dans une manière dumping, pour utiliser un mot plus populaire, dumping social, dumping fiscal, dumping environnemental. Il y aurait les effets, l'accord, il y aurait le tarif, et ça va être pour l'avenir, ça c'est le grand débat autour de cet accord. Ça va prendre une prise de position très politique de l'Union européenne de mettre en place les sanctions qui sont permises dans cet accord. Si le gouvernement britannique met en place les propositions de législation pour déréglementer l'économie britannique.
Et
ça,
vous,
c'est à voir dans les semaines, les mois à venir.
Et vous, désormais, en tant que, je disais, syndicaliste, hein, vous êtes secrétaire adjoint d'un syndicat du travail de l'industrie européenne, je crois que c'est Industry All Européenne, hein, où vous travaillez dans,
ouais,
dans cette représentation des travailleurs de l'industrie. Il y a des craintes, ouais, à ce niveau-là d'avoir des normes sociales, voire environnementales, qui pourraient baisser au niveau du Royaume-Uni. Est-ce que vous le voyez comme une crainte, vous?
Oui, un grand oui à cette question. Nous représentons dans Industrial Europe non seulement les syndicats de l'EPE de l'Union européenne, mais les syndicats de 38 pays européens, donc y compris les syndicats britanniques. Et c'est une énorme crainte pour les travailleurs britanniques. Et pour les syndicats britanniques, le droit du travail est vraiment visé par les Brexiteers pour rendre le Grande-Bretagne plus compétitive dans une manière très négative pour les travailleurs. De côté Union européenne, évidemment, dans l'industrie, on peut travailler sur le prix d'énergie, on peut travailler sur le prix matières premières, mais le coût du travail est très important dans le débat de l'évolution de l'industrie dans différents pays. Donc, toutes les actions qui donnent un avantage par la déréglementation, par le dumping social, sont très politiques dans le monde syndical d'industrie, et nos affiliés, nos organisations nationales sont, nous sommes en train de regarder avec grande vigilance qu'est-ce qui est en train de se passer en Royaume-Uni. Et les signes, les premiers signes sont pas top, on peut dire, parce que déjà, juste, il y a deux semaines ou trois semaines depuis l'accord, l'écriture n'est pas encore séchée sur le papier. Et le gouvernement britannique a déjà donné signe qu'il vise, par exemple, la réglementation européenne sur le temps du travail, certaines réglementations sur la santé et sécurité. Il voit ça comme une réglementation qui doit être enlevée, qui doit être déréglementée. Ça va être très difficile et très politique.
C'est le temps qui va nous permettre de vérifier si finalement les normes vont... Il n'y aura pas des régressions dans, ouais, dans les normes de concurrence entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais pour l'instant, Madame Kirtan-Darling, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter The Clash, un souvenir de jeunesse pour certains d'entre nous, avec le titre « Should I stay or should I go ?» Pour ce qui est du Brexit, malheureusement, le choix est fait.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. decisions bugger me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, eager me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
J'ai encore deux petites questions et après on conclura cette émission. J'avais une question aussi sur, on a l'impression aussi que le coût du Brexit, dont on parlait beaucoup, beaucoup, comme étant quelque chose qui va impacter l'économie anglaise, mais aussi européenne, finalement, avec le Covid, on a un peu cette idée que ce coût, il est dilué dans la gestion de la pandémie. Donc, on ne saura finalement jamais si les répercussions financières ou économiques du Brexit.
Oui, c'est clair que Covid cache beaucoup de choses qui sont en train de se passer, qui sont fortement liées à Brexit. Et donc, certainement dans le débat national britannique, pour beaucoup de gens, Brexit a passé son grand dommage. Parce que le dommage de Covid actuellement est tellement grand que ça cache tout. Mais l'exemple de le pêcheur, une industrie qui est venu un petit peu un emblème, un symbole de cette débat sur le Brexit. Ça, c'est un exemple où c'est clairement le Brexit qui a un effet et pas le Covid. Mais notre gouvernement britannique a tellement mal géré Covid et l'information nationale est tellement confus pour beaucoup de gens et le dommage est très important que oui, si on est cynique, c'était partie de la stratégie aussi de la Brexiteers. Ils peuvent avoir un Brexit plus dur parce que les effets sont cachés par Covid dans une manière. Ça, c'est, si on veut être très cynique, ça, c'est une analyse de cette situation. Mais quand on regarde plus près, on voit qu'il y a pas mal d'effets de Brexit dans différents secteurs. Et dans les années à venir, je crois que ça va être encore plus évident dans certains secteurs comme l'automotive ou aérospatial ou d'autres. Certainement le chimie. Ouais.
Alors, pour finir cette émission, en ce début d'année, puisque nous sommes encore au courant du mois de janvier, êtes-vous positif sur l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a quand même une note positive de votre côté? Est-ce que vous voyez quand même quelque chose de positif?
Oui, je suis un optimiste en général. Et mon optimisme, c'est que, en fait, peut-être après 40 ans de malinformation et puis 5 ans de cet débat national, les gens vont commencer à se rendre compte qu'est-ce que notre affiliation à l'Union européenne a vraiment été en réalité. C'est clair que beaucoup de sujets, on est beaucoup plus fort si on travaille ensemble. Je crois qu'il y aurait un rapprochement au fil du temps entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ça, c'est mon espoir et j'espère que j'aurai raison là-dessus.
Merci, Madame Judith Kirtan-Darling, d'avoir participé à notre émission et nous avoir donné votre regard sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, maintenant que l'accord commercial a été adopté. Je rappelle que vous avez été députée européenne jusqu'au Brexit et vous représentez actuellement un syndicat européen des travailleurs de l'industrie. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. On se retrouve bientôt pour notre émission européenne. Portez-vous bien. Thank you.